Nikos Aliagas, en balade avec Étienne Dao sur Europe 1.
Bonjour à tous, bon dimanche, merci de nous retrouver comme tous les dimanches à 11h sur Europe 1. Ce matin, on part en balade avec un chanteur qui, malgré son look d'éternel adolescent, a sorti son premier album il y a déjà 36 ans. 36 ans. Ça s'appelait Mythomane. Et une chose est sûre, il est tout sauf un mythomane. Il a construit sa carrière petit à petit, sans jamais se trahir. Il nous raconte une belle histoire, jalonnée de tubes. Il est discret, courtois. On dit de lui qu'il est le patron de la pop française. Ce matin, je suis très heureux de partir en balade avec Étienne Dao. Il nous a donné rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris, au 13 rue des Récollets, à côté de l'école des Récollets, devant un magasin de disques qui s'appelle le Record Station. En balade avec Étienne Dao, ça commence maintenant. Bonjour Monsieur Dao.
Bienvenue cher Nikos. Comment ça va ?
Content de vous voir Étienne. Merci beaucoup. Vous vendez des disques ?
Je vends des disques, oui. Je vends des vinyles.
Vous vendez des vinyles ? C'est presque entré en résistance aujourd'hui.
Ah non, la vente des vinyles a complètement redécollé et au contraire, ça fait 10% je crois, des pourcentages de vente de disques en fait. Ce qui est énorme.
Vous l'expliquez comment ?
Ben, je pense que les gens sont peut-être un peu... fatigué de la dématérialisation. Alors ça peut être très bien la dématérialisation, c'est bien qu'on puisse écouter et consommer la musique de plein de manières différentes, mais il y a aussi l'objet, le rapport qu'on a à l'objet, le rapport d'affection.
Charnel presque, ouais.
Oui, complètement charnel, le rapport d'affection qu'on a par rapport à un objet, la pochette, tourner le disque quand la première face est finie, écouter dans l'ordre et pas du tout en random. C'est être plus en contact avec l'œuvre, je trouve.
Mmh. Oui, parce qu'une chanson qui est choisie par l'auteur ou l'interprète et qui est mise dans un ordre spécifique,
c'est jamais anodin. Oui.
Ouais, vous passez des nuits à décider de quel morceau vous allez mettre en premier ou le deuxième, et puis maintenant on l'écoute en shuffle. Oui. Maintenant c'est dématérialisé, comme vous avez dit. Vous avez été disquaire, j'ai lu. C'est vrai, vous avez vendu des disques.
Oui, quand j'étais en fac. Enfin, je faisais trois trucs en même temps. J'étais en fac, mais très vaguement. Je crois que c'est ce que je faisais le moins, d'ailleurs. Mais je vendais des disques dans une boutique dans la journée.
À Rennes ?
À Rennes. Ça s'appelait Opus Disque. Mm-hmm. Et puis, le soir, j'étais DJ dans une boîte. Ce qui fait que je dormais à peu près 5 secondes par nuit. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
On est arrivé dans ce magasin de disques ici, dans le 10e arrondissement. Une toute petite boutique.
Oui.
Les murs sont tapissés d'albums. Je vois He's a Rebel, The Magic of Juju, Archie Shepp, hein, le saxophoniste. C'est assez pop d'un côté, c'est jazz. Il y a du Nina Simone, évidemment, du Sam Cooke. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, dans cette boutique de disques ?
Un peu de tout, en fait. J'ai découvert cette boutique il y a quelques années maintenant. Et quand je suis rentré, j'ai senti que le choix qui était fait n'était pas anodin. Ça correspondait vraiment à des choses que j'avais envie de trouver, de racheter aussi, parce que j'avais acheté des pressages français, mais pour moi, peut-être qu'un album aussi, c'est un peu comme une peinture, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir l'original avec le premier pressage, avec la pochette d'origine. Et donc voilà, c'est ce qu'a cette boutique. Et donc j'ai rencontré donc Quentin, qui tient cette boutique, et on est devenus très amis. La musique a été vraiment le terreau de cette amitié. Et donc c'est un magasin où je viens régulièrement pour acheter des choses, et puis aussi pour découvrir des choses.
Écoutez, je vois qu'il y a une platine. Bonjour Quentin.
Bonjour. Bienvenue, donc bienvenue ici.
Donc Étienne Daou est un client, il vient chiner dans vos disques pour essayer de trouver.
Un des habitués les plus fidèles, un des premiers habitués. C'est à la suite d'une session d'enregistrement qu'il a poussé la porte du magasin la première fois. Et depuis, voilà, on a échangé beaucoup. Moi, il m'a aussi ouvert. C'est aussi le but de ce genre de magasin. Moi, c'est ce qui me faisait aussi fantasmer. C'est avant d'être une boutique, c'est un lieu d'échange. Et Étienne, par exemple, m'a aussi ouvert des horizons. Moi, c'était une période où j'aimais beaucoup la soul, donc je lui ai fait découvrir des albums de soul. Et à l'inverse, il m'a ouvert toutes les portes de la fin des années 70, l'underground new-yorkais, tout les années 80, la new wave française.
Qu'est-ce que vous faites écouter, par exemple, à Étienne quand il arrive la première fois? Vous lui proposez quel disque?
Les premières fois où il est venu, ouais. Il s'est racheté un peu ce qu'il connaissait déjà parfaitement bien, toute la collection Motown.
C'est-à-dire, j'ai trouvé les éditions originales des disques que j'avais ou en compilation, et donc tout d'un coup de voir les albums en édition originale, c'était un trip énorme pour moi.
Ah, vous redevenez un gamin à ce moment-là.
Oui, j'ai une passion pour le disque, ça reste un objet magique pour moi, toujours.
Vous en avez beaucoup chez vous, des vinyles?
J'en ai pas énormément, je dois en avoir 2500.
Il faut plusieurs apparts pour 2500. Et puis vos
disques. Je sais pas, non, peut-être moins. Enfin, je dis 2500.
Et vos disques d'or, vos CD de platine, vous les mettez chez vous ou ça vous concerne pas en vrai?
Alors, à vrai dire,
Étienne Daou,
tous mes disques d'or et de platine étaient dans un placard pendant des années. Et un jour, j'ai eu un disque d'or pour le 45 tours avec Dany, Boomerang. Et donc, j'ai ramené ce disque d'or pour cette fête. Et j'étais avec des amis et qui m'ont dit « Ah, c'est ton premier disque d'or ?»
Ouais.
Et je leur ai dit « Mais non, j'en ai eu déjà quelques-uns. »
Des dizaines.
Et ils m'ont dit mais donc, tu les exposes pas ?» Je dis « Ben non, ça me gêne de les... Ben, » C'est pas un musée, Étienne Daou.
C'est un pudique. Oui, c'est votre métier.
Et
c'est
donc,
pas
je suis allé leur montrer tous ces disques d'or. Ils les ont sortis et on les a installés. Comme ça, ils sont restés. Et donc, voilà, maintenant, ils sont tous là. Je suis encerclé, c'est pas mal, ça envoie une jolie lumière, je trouve.
Je fous des bombes et des bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues,
comme de fous ailiers. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté.
Ce dimanche, on est dans le 10e arrondissement à Paris, dans une boutique de disques avec une atmosphère très intimiste. Ça s'appelle Record Station, pour le prononcer à l'anglaise. En français, c'est Record Station. Et c'est grâce à Étienne Daou qui, ce matin, nous propose une balade dans cet endroit qui est important pour lui. On va peut-être écouter un vinyle, juste le diamant qui se pose délicatement. Vous en pensez quoi? Je voulais choisir la chanson. Hein.
Je crois qu'il y a un Lou Reed sur la platine.
Ouais,
donc voilà.
Il y a Crazy Feeling.
Lou Reed, c'est un peu Dieu pour moi.
On va l'écouter juste après ça, tout de suite.
Nikos Aliagas vous emmène en balade avec Étienne Daou sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce matin, on est dans le 10e arrondissement en balade avec Étienne Daou. On est dans une boutique de disques qui s'appelle Record Station. Et c'est Étienne Daou qui nous a fait découvrir cet endroit qui ressemble à la caverne d'Ali Baba. Il y a des disques partout, sur les murs, des photos de Ringo Starr, plein de stars dont Nina Simone, mais aussi Etta James. Et puis le disquaire nous a mis juste le début et a posé le diamant sur le vinyle pour qu'on écoute du Lou Reed. Ça, c'était votre choix musical. Et vous bougez, vous le ressentez, mais c'est étrange parce que le vinyle, c'est une invitation tout de suite à se poser.
Oui, et puis il y a le son surtout. Hein. Je sais pas, tout de suite, vous avez senti la chaleur. Enfin, on est enveloppé, quoi. Mais ce disque sonne particulièrement bien aussi. Hein.
Il y a un vernis qu'on n'a pas nécessairement sur le CD. Il y a des fréquences dans le CD qui sont dérangeantes.
Il y a quelque chose avec la wax, quoi, la cire. C'est ouais, que ça, ouais. Tout d'un coup, ça donne une chaleur. C'est comme l'analogique, en fait. Ouais. Quand on enregistre en analogique, batterie et basse sur une bande, tout de suite, Je dis, c'est un disque, quoi. Je peux pas expliquer. On n'a jamais ça du tout avec le numérique.
Ou le CD, par exemple, au départ, quand le CD est arrivé, on était tous impressionnés par.
Oui, parce que c'était génial.
Cristallin, quoi.
Mais ce qui était aussi impressionnant, c'est que quand le CD est sorti, tous les catalogues ressortaient. Ce qui fait qu'il y avait des titres inédits, il y avait des albums qui n'étaient pas ressortis depuis longtemps. Je me souviens, par exemple, quand j'étais disquaire, il y avait le best-of et l'album qui avait très bien marché. Enfin. Les intercalaires par artiste, il y avait 3 ou 4 disques seulement.
Ouais, ouais.
Alors qu'après, quand le CD est arrivé, quasiment tout le catalogue était disponible. C'était incroyable.
Le premier vinyle que vous avez acheté, c'était lequel, Étienne Dao?
C'est Pink Floyd, Piper of the Gates of Dawn. J'avais 12 ans.
Impressionnant.
Et je suis pas redescendu.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cet album à l'époque? Un gamin de 12 ans qui est à Rennes, il écoute quelque chose d'un peu psychédélique, un peu onirique, c'est le voyage, c'est quoi?
C'était incroyable, la manière de Syd Barrett qu'il avait de composer, ses guitares, les inventions qu'il y a dans ce disque, c'est exceptionnel, c'est époustouflant, toujours. Et il y a quelque chose qui est très relié à l'enfance aussi dans la manière qu'a Syd Barrett d'écrire, de composer, c'est comme des comptines un peu macabres.
Il est important pour vous, Syd Barrett?
Oui,
Venez de finir un album qui est un petit bijou, c'est vraiment une perle parce que vous êtes totalement libre d'être vous-même et donc plusieurs choses à la fois dans cet album musicalement. On va en parler de Blitz tout au long de cette émission. Et en même temps, vous qui avez expérimenté ce voyage musical à Londres, vous êtes quasiment isolé, vous êtes rendu compte que l'âme de Syd Barrett était toute proche.
Ah mais c'est incroyable, mais j'ai la sensation que quand je suis dans un projet ou que je vais faire un disque, c'est comme si j'avais le doigt de Dieu sur la tête, quoi. Tout se met en place pour que les choses arrivent. Et là, j'ai été encerclé par Syd Barrett, mais véritablement. C'est-à-dire que j'ai rencontré son colocataire de l'époque, on est devenu amis, et il m'a amené dans l'appartement qu'il partageait avec Barrett, quoi. Donc c'était très émouvant pour moi de me retrouver dans la chambre de Barrett, cet endroit où il avait...
Chambre 29, ça donnait
voilà,
un titre.
Exactement. Me retrouver dans cette chambre, justement, où il avait tellement souffert, où il avait écrit toutes ses chansons et tout ça. J'ai trouvé ça... Ça va retourner, quoi.
En balade avec Étienne Dao, Nikos Aliagas.
C'est extraordinaire quand même la création de l'artiste. Ce garçon, Syd Barrett, était super jeune quand il a d'abord fondé Pink Floyd.
Ouais.
Quand il a tout inventé. Puis juste après, un peu comme Rimbaud, il a changé de vie. Il est allé planter des choux dans son coin.
Mais
à 24 ans, il a décroché, quoi.
Il interroge beaucoup sur la vulnérabilité de l'artiste et puis surtout sur la pureté de l'artiste. En fait, je crois qu'il s'est... Enfin, C'est une énigme en fait, Syd Barrett. À 24 ans, tout était fini. Il est reparti habiter chez sa mère à Cambridge. Il y a eu aussi beaucoup de LSD et beaucoup de neurones fusillés. Mais au-delà de ça, je pense
qu'il
a
touché quelque chose avant.
Il y a eu peut-être un terrain. On dit qu'il avait un syndrome d'Asperger, mais on ne sait pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation, ce qui rajoute à la fascination qu'on peut avoir pour lui. Qu'à 24 ans, un personnage fantastique, qui invente quelque chose, qui est sublime, qui rayonne, et tout ça, tout d'un coup, saute du train comme ça, ou se fait jeter par les autres membres du groupe. Et aussi parce que les autres membres du groupe avaient envie aussi d'avoir une carrière, et que lui avait des envies d'autre chose. Enfin, en tout cas, il voulait pas faire de la pop.
C'est Étienne Dao qui est en balade avec nous ce matin sur Europe 1. Et on a commencé cette balade ici dans un magasin de disques dans le 10e arrondissement de Paris. Étienne, on peut continuer la petite balade au bord du canal Saint-Martin, vous en dites quoi?
Ouais, ok.
Merci de nous avoir reçus, Quentin, merci infiniment.
Bah, merci à vous, et puis à bientôt, du coup, quand vous voulez, entre les murs du temple, comme l'appelle Étienne.
Les murs du temple de Record Station, c'était super de commencer dans cette ambiance musicale où le vinyle est roi. Si vous voulez bien, Étienne, on va prendre la rue des Récollets.
Allons-y.
Vous connaissez le quartier ?
Je connais pas très bien le quartier. J'ai découvert le quartier en fait en étant le client chez Record Station. Et donc de fil en aiguille, je suis devenu ami avec eux. De fil en aiguille... Ils m'ont fait découvrir un peu le quartier, les restaurants du quartier. Et donc je viens de temps en temps quand je peux, malheureusement pas aussi souvent que j'aimerais. Mais...
Vous vous souvenez de la première fois où vous arrivez à Paris ?
Ah oui, j'étais petit. Hein. J'avais 7 ans.
Vous veniez d'Algérie ?
Oui.
Et vous avez habité où le premier soir à Paris ? Quand on arrive, un gamin de 7 ans qui arrive à Paris ?
Mes grands-parents habitaient boulevard de Clichy. Alors c'était au départ, ils étaient au-dessus d'un cinéma de films d'horreur. Donc c'était terrifiant, il fallait rentrer dans une bouche avec des grandes dents de Dracula. Et c'était l'entrée, et puis après c'est devenu un sex shop, donc il y avait des lumières qui clignotaient toute la nuit, ils étaient au premier étage.
Mais quel accueil pour le gamin que vous étiez qui venait d'un pays de lumière, mais un pays difficile aussi à l'époque, parce que vous avez connu les événements, la guerre, tout petit quoi.
Oui, tout à fait, mais... Comme tous les enfants, tous les enfants s'habituent en fait, s'adaptent à toutes les horreurs. En fait, ça devient une espèce de quotidien, même si on peut être un peu éponge par rapport à l'anxiété des adultes. Mais quand on est enfant, on continue à jouer, quoi.
Vous n'aviez pas la mélancolie d'ailleurs. On a laissé notre pays, on a laissé notre soleil, on a laissé notre joie de vivre. C'est-à-dire que vous êtes
en tout cas pas tout de suite. Oui, s'il y a une obligation d'adaptation, on oublie en fait, on s'adapte, on mobilise toute son énergie pour s'adapter. Donc voilà, je pense que tous les enfants font ça.
Comme si j'étais assis là-haut. Paradis.
Vous baladez facilement dans la rue, personne ne vous embête, Étienne Dao. Vous arrivez à devenir invisible ou pas ?
Invisible, ça dépend. J'aime bien être l'homme invisible en fait. C'est pour ça que j'aime bien l'étranger en fait.
Parce que personne ne vous interpelle en permanence pour des selfies ou des choses comme ça.
Exactement.
C'est pas tellement.
Non, mais c'est bien, c'est mieux de vivre avec les autres. Surtout quand on écrit des chansons, on a besoin de se mélanger avec les autres. Et l'isolement. Que fabrique la célébrité, parfois c'est pas très sain quoi.
Là on est en train de passer au-dessus du canal Saint-Martin et on prend ce pont aérien qui est très typique de Paris avec les gens qui nous regardent, mais tranquille, j'ai pas l'impression, Étienne Dao, que le public qui vous suit depuis toutes ces années soit passionnel ou agressif avec vous pour une photo, il vous tire pas les vêtements. C'est que vous avez réussi avec votre personnalité, qui est celle d'un artiste calme, tranquille, et en même temps qui fait son chemin, à tenir justement une distance de politesse avec le public. C'est le cas ou pas ?
Oui, la distance, elle se fait d'elle-même. Et c'est plutôt bien. Je veux dire, je préfère. Sauf quand je suis en tournée.
Sur scène, par exemple.
Voilà, exactement.
Vous arrivez sur une scène chauffée à blanc.
Là, ça peut se déchaîner. Là, au contraire, je fais tout pour provoquer. mais dans la vie, non. Dans la vie, ça m'intéresse pas tellement. J'ai pas fait ce métier pour. J'ai pas vraiment fait ce métier pour être.
Pour être une idole.
Non. Voilà, c'est la musique qui m'a attiré. J'ai vraiment fait ce métier parce que c'est une vraie vocation. Et pas du tout par envie qu'on me regarde, au contraire.
Il faut être mature en même temps pour pas être grisé par les couvertures des magazines, le numéro 1 du top 50, pour se dire qu'à un moment, j'ai envie de faire le pas sur le côté pour me protéger. Où est-ce que vous avez puisé la maturité, justement, pour pas sombrer dans ce...
Je sais pas si c'est de la maturité, je pense que c'est le fond de ma nature, en fait.
Ouais.
Le fond de ma nature est de pas du tout être quelqu'un qui
expansif.
Aime se montrer. Je suis assez pudique. Bon, après... Dès qu'on me colle un micro sous le nez ou une caméra, je deviens quelqu'un d'autre. Je suis un petit peu plus fermé. Mais autrement, je peux être très extraverti, quoi. Ouais. Ça peut m'arriver.
C'est un paradoxe permanent. On est à l'Hôtel du Nord, le restaurant et l'hôtel juste au-dessus. L'Hôtel du Nord, c'est le cinéma.
Hôtel mythique. Hein. Ouais. C'est marrant parce que quand j'étais débutant, il y a eu une émission, un spécial Enfant du Rock. C'est vraiment l'émission qui m'a fait connaître. L'émission est passée et en l'espace d'une nuit, en fait, je suis devenu très connu d'un coup. Je me souviens, j'étais parti à Ibiza en vacances. Et je suis revenu à l'aéroport, j'ai mis des autographes partout, et tombé pour la France, et un titre qui a explosé. Et c'était un espèce de petit documentaire de 20 minutes, un portrait, dans lequel on reprenait une des scènes d'Hôtel du Nord avec Lio, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Alors rien, j'en ai assez, tu saisis, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer d'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Vous êtes vous-même cinéphile?
Oui, j'essaie, dans la mesure du possible, de voir beaucoup de films, d'avaler beaucoup de films, ouais, c'est vrai.
Ça vous inspire dans vos compositions, dans vos chansons?
Oui, il y a plein de titres que j'ai empruntés au cinéma, Le Grand Sommeil. La Notée, c'était le film d'Antonioni. Weekend à Rome, c'était Vacances Romaines. Donc oui, vraiment, je suis très imprégné par les images. Et par la pellicule.
Et ensuite, c'est le cinéma, la pellicule, qui vient prendre votre musique pour la marier aux images. En fait, on l'a vu dans le film 7 ans de Jean-Pascal Attu avec des heures hindoues. On l'a vu avec L'Adoré dans le film d'Hélène Filière, hein, très sombre, une histoire d'amour avec Laetitia Casta notamment.
Le premier jour du reste de ta vie. Cette chanson et ce film ont touché à une fibre très particulière. C'est difficile de le définir moi-même, parce que ça dépasse en fait.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose.
De toute manière, tout vous dépasse, vous livrez votre musique, et puis après, ben voilà,
Inch'Allah, après, oui.
Ça vous concerne plus.
Après, c'est les autres qui décident de vous choisir ou pas.
Ouais.
C'est ça le mystère de toucher les autres et de fabriquer une histoire avec les autres. Ce sont les autres qui vous choisissent.
Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Jour du reste de ta vie, c'est providentiel.
On ne sait jamais ce qui va rester, Étienne Dao. On ne sait vraiment jamais. Est-ce que quand il tournait Arletty, le film avec les autres protagonistes, si on leur avait dit que toutes ces années plus tard, on allait garder le atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'est pareil pour vos chansons. On ne sait pas celle qui restera, celle qui bravera le temps.
Oui, mais
vous l'espérez, j'imagine.
Ça fait partie de la magie de lancer quelque chose en l'air. Et on ne sait pas comment les gens les rattrapent et le chemin que ça fait après. Enfin, comment on crée un lien avec les autres, avec une chanson. Ça, c'est magique. Ça ne se fabrique pas.
Hein. En balade avec Étienne Dao ce matin, on va quitter le Kedje Map. On est devant l'Hôtel du Nord. Et nous allons nous rendre dans un hôtel particulier, ou plutôt dans l'hôtel particulier. Le temps de commander le taxi, vous nous expliquerez en chemin ce dont il s'agit. À tout de suite.
En balade avec Étienne Dao sur Europe 1. Nico Saliagas.
De retour sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un immense artiste qui nous accompagne ce matin avec ses souvenirs, avec sa musique. Surtout, on est en balade avec Étienne Dao. On a quitté le Kedje Map tout à l'heure avec l'Hôtel du Nord et nous nous rendons dans l'hôtel particulier à Montmartre et nous passons par la rue Louis Blanc, par Stalingrad. On est en train de traverser tout l'est de Paris et nous parlons aussi, mon cher Étienne Dao, de votre dernier album intitulé Blitz. Blitz comme un bombardement, un chambardement, un chamboulement.
Oui, aussi comme la foudre, c'est la foudre, la lumière. C'est une mise en lumière de soi-même aussi. Et puis c'est un titre qui a une énergie qui est forte, quoi. Et c'est un titre court, contrairement à mon précédent album, qui avait un titre à rallonge.
Parce qu'il est très cinématographique.
Les chansons de l'innocence, oui. Retrouvée. La Blitz, voilà, ça claque.
L'album est riche, On passe d'humeur presque psychédélique à des choses un peu plus intimistes, parfois qui sont dans la logique ou dans la vie d'après la Motown. C'est-à-dire que vous êtes un homme libre aujourd'hui, Étienne Daou, vous faites ce que vous voulez artistiquement
parlant. Je me suis toujours senti libre de faire ce que je voulais musicalement. Toujours. J'aime la pop, hein, j'aime les chansons, faire un petit objet comme ça, très luxueux, de 2 minutes 30 et de raconter une histoire ou de partager une émotion avec les autres dans un petit format qui est le format de la pop qui court partout, quoi.
Ouais.
Je suis fasciné par ça, quoi. Je suis fasciné par cette communication qu'on peut avoir avec les autres juste avec une chanson. Et je le vois parce que, surtout quand les chansons sont des tubes, je m'en suis rendu compte en tournée. Par exemple, la dernière tournée que j'ai faite est une tournée des festivals. Et pour les festivals, j'avais décidé d'axer en tout cas le show, enfin le répertoire, sur des chansons que les gens connaissaient, une espèce de pop hits, quoi. Ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Et
réorchestré, revisité avec un son d'aujourd'hui.
Mais c'était insensé de voir à quel point, dès qu'il y a une intro, une espèce de clameur qui monte. Il y a quelque chose qui se produit de ce partage. De ces échanges qu'on a avec les autres grâce à les chansons qu'ils connaissent, qui leur rappellent peut-être des moments, un endroit, etc. C'est vraiment fabuleux. Je crois que je m'en suis rendu compte véritablement pour la première fois il n'y a pas si longtemps. Et c'était merveilleux, quoi. C'était une découverte, voilà.
Regardez, on est devant le bar musical. Vivre ensemble avec nos différences, rue Doudeville. C'est intéressant ce message avec les gens devant quoi, qui boivent leur café, des petites bières. Bar culturel, c'est intéressant.
Et bar musical.
Vous aimez ce genre d'endroit? Il y a un déménagement, plus le taxi s'est arrêté. Bien, puis descend. Le conducteur est parti, le chauffeur est parti. Là, il revient.
On était abandonnés là.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur?
En fait, c'est le camionneur là. Les bouchons là.
Ah oui, il livre.
Mais bon, là, ça va, oui.
Paris, quoi.
Je suis pour rien, je fais l'effort, tout l'impossible. Quoi,
vous voyez. Vous inquiétez pas, merci monsieur.
Voilà.
Vous aimez bien ces petits bars. Vous allez vous-même voir à Londres, vous le faites beaucoup,
à Londres,
la nouvelle scène, ce qui se passe.
Oui.
Vous l'avez fait, c'est comme ça que vous avez découvert Jad Vincent?
Non, j'ai découvert à la radio. En fait, j'écoute BBC Six et il y a toute une playlist de choses nouvelles. Et il y avait un titre qu'ils ont enregistré qui s'appelle Guilty of Love. Et c'est absolument tout ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est très 60s, mais vraiment contemporain. C'est comme si Phil Spector, tout d'un coup, faisait des prods aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'ampleur, ces tomes très, très spectaculaires.
Ils ont ça, les Anglais.
Ouais. C'est très sophistiqué. Et c'est comme un film. Et donc, j'ai acheté, c'était à l'époque un 4 titres, que j'ai du mal à trouver. Et j'attendais comme un fou vraiment la sortie de l'album. Et quand le disque est sorti, il faisait un petit DJ set au nord de Londres, à Shoreditch. Et j'ai mis un temps fou à arriver parce qu'il n'y avait pas de taxi, le métro ne marchait pas. Et je suis arrivé trop tard, il y avait 300 personnes devant et leur DJ set était fini. Et je me suis dit, bon, ben voilà, j'aurais tenté, comme ça j'aurais pas de regrets. Et au moment que je pars, je me retourne et je rentre dans un mec. Et c'était le leader du groupe.
Encore une coïncidence.
Encore une coïncidence, mais je crois pas aux coïncidences.
Pardonnez-moi, Etienne, vous dites quoi? Hello, I'm a French singer.
Je n'ai pas dit qui j'étais. Je lui ai dit juste que j'étais dingue de son disque et que je le remerciais.
Alors on va écouter un extrait de cette chanson qui vous a marqué dès la première écoute. Voici Jad Vincent, Guilty of Love.
Mistakes I've made, whether mine or happenstance, guilty of love. Wrong or right, I'm guilty of love, I confess. Haunted all too often it seems, in my thoughts and in my dreams. I made no excuse, I did my part. With broken hearts, I will never forget, will always regret.
suis toujours plein de gratitude quand il y a un disque qui m'envoûte, quoi, qui me transporte.
C'est ce que dit Françoise Hardy. Quand
oui,
on aime une musique,
on a ça en commun, véritablement.
On a la gratitude.
C'est une amoureuse de la musique et toujours, ça fait conserver une âme jeune.
En quelques instants, on arrive dans l'enceinte de l'hôtel particulier, qui est un endroit choisi par notre invité ce matin. Étienne Daou, à tout de suite.
À tout de suite.
En balade avec Étienne Daou sur Europe 1. Nico Saliagas.
De retour sur Europe 1 avec Étienne Daou. On est à Paris, on a commencé dans le 10e arrondissement, on a traversé tout l'Est pour arriver dans un village, oui, c'est le village de la Butte Montmartre. Avenue Junot. Pourquoi on est là, Étienne ?
On est là parce que je vous invite dans un endroit qui s'appelle l'hôtel particulier. D'ailleurs, il y a cette charmante jeune fille qui nous ouvre la porte. Elle allait sortir, ça nous évite de sonner. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour.
Ouais, je vous vois plus en fait.
Parce que moi je suis freelance, je suis détachée en fait de l'hôtel.
Ok.
Mais il y aura les réceptionnistes pour vous. Ouais. Très
bien. Merci mademoiselle.
À bientôt.
On est bien reçu, on est dans une voie privée en fait, pavée.
C'est une voie pavée et il y a un hôtel qui est planqué à l'intérieur de cette voie privée. Là il y a un terrain de pétanque. C'est très difficile d'y rentrer. Vraiment, il faut montrer patte blanche, être du quartier, être parrainé, tout ça.
Il n'y a personne.
Ça rigole pas du tout.
Uniquement réservé aux membres du club, c'est le club Le Pic Abbesse Pétanque.
Voilà, exactement. Là, il y a un magnifique escalier aussi. Bonjour.
On se croirait dans un Paris.
C'est beau, non ?
Des années 50, presque.
Ouais.
Vous avez vu la Tour Eiffel au fond ?
Ouais, la vue est vraiment magique. On a vraiment l'impression d'être dans un village, quoi.
Il y a du lierre, il y a des platanes.
Voici l'hôtel, il y a des coqs et des poules.
C'est vrai ?
Oui, oui, regardez.
Ah là, on dirait vraiment
deux,
un village.
Là.
Mais c'est vrai ?
Mais bien sûr.
Ah, mais ce sont des vraies poules, quoi.
Ouais, absolument, oui. Bonjour.
Surréaliste, quand même. En plein cœur de Paris.
En plein cœur de Paris.
Je vous suis dit, il y a un petit jardin derrière. Vous venez souvent ici, Étienne Daou ?
Oui, je viens souvent. J'habite juste à côté.
Donc ça vous ressource ?
Oui, puis en fait je viens faire aussi tous les entretiens.
Aux interviews ?
Enfin, quand je peux, c'est quand même c'est un endroit agréable pour tout le monde, quoi. On peut s'asseoir ?
C'est très photographique comme endroit ici.
Ouais, c'est très beau.
On demande aux artistes si leur art est une thérapie. Est-ce que la musique a été une thérapie pour vous, Étienne Daou ?
Sûrement, oui, je crois. C'est pas que ça, hein. Vraiment... La musique, c'est une passion surtout. Hein. Ça permet aussi de lâcher des choses. Ça permet aussi d'aller au bout de certains sujets qui vous taraudent.
Ouais.
Donc effectivement, c'est vrai que ma façon d'écrire a complètement changé, je trouve, depuis deux albums. J'avais l'impression, avec un album qui s'appelle L'Invitation, d'être allé au bout de justement de ce autour de quoi on tourne inlassablement. Et ensuite, ma façon d'écrire a complètement changé, elle n'est pas sur le jeu, elle n'est pas sur le moi, elle est plutôt sur les autres.
Il faut beaucoup d'années finalement pour réaliser que c'est à travers les autres qu'on peut se trouver. C'est comme le photographe, vous êtes aussi photographe.
Oui, on m'avait offert un appareil, un Rolleiflex quand j'avais 12 ans et je shootais ma famille, mes amis, les pochettes de disques que je préférais. Donc voilà, c'était ça l'essentiel de mes photos.
Focale fixe.
Ouais. Et puis ensuite, j'ai continué à en faire. Et là, il m'a été donné l'occasion de photographier toute la nouvelle génération de musiciens de la French Pop. Et ça a été génial de pouvoir, en tant que musicien en plus, avoir créé un lien comme ça avec eux.
La femme, Flavien Berger, Les Scopes,
Calypso Valois,
Loudoyon.
Et beaucoup. Puis aussi leurs parrains. Hein. J'ai photographié Eli Medeiros, Philippe Pascal de Marquis de Sade, Dominica. Donc voilà, y a tout ça, ça fait des beaux portraits.
En noir et blanc ?
En noir et blanc, 80% du temps. C'est toujours plus mystérieux.
Une passion pop, en tous les cas, photographique, que vous racontez dans une exposition qui sera présentée à partir du 5 décembre, ça va durer hein, jusqu'à la fin du mois d'avril, à la Philharmonie.
Mais il n'y a pas que mes photos. Hein. Cette exposition, elle est particulière parce qu'elle elle est en fait, comme j'avais qu'une trentaine de photos et qu'ils m'ont demandé de les exposer, ça faisait vraiment un peu maigrichon. Donc au fur et à mesure des conversations avec eux, parce qu'ils avaient vraiment envie, on a envisagé, imaginé que je serais le narrateur et guide
d'une histoire,
de l'histoire de la pop, de mon histoire de la pop française des années 50 à aujourd'hui. Donc ça fait pas beaucoup, parce que c'est un peu contraignant, parce qu'en fait il y a que 200 images, et 200 images pour couvrir une période aussi longue, c'est pas beaucoup. Donc il y a pas tout le monde, c'est pas un catalogue de toute la pop française.
C'est un instant, un regard.
C'est mon regard, c'est les artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique, ceux sur lesquels j'ai envie de mettre de la lumière, ceux avec lesquels j'ai travaillé. C'est ma relation et mon histoire de la pop. C'est pas l'histoire globale de la pop française. Donc il y a des absents, hélas.
On dit de vous que vous êtes le pape de la pop.
Oh là là.
Ça vous parle ?
Pape et pop, ça sonne bien en même temps. Pour le son, je suis d'accord.
Est-ce que vous êtes d'accord quand il parle aussi de la texture de votre voix louride ? Il a dit que c'est l'une des plus pures, des plus chaleureuses, qu'elle a la couleur du soleil couchant et du champagne. Louride a dit ça de vous, Étienne Dao.
Oui, oui.
Vous êtes sensible au regard de vos collègues artistes ou chanteurs et d'un mythe comme lui ?
Surtout quand c'est louride. Non mais enfin, ça peut pas. Enfin, le compliment ne peut pas être plus beau. Pour moi, c'est vraiment un des artistes majeurs, véritablement. C'est avec Syd Barrett, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'artiste vraiment qui a révolutionné ma sensibilité d'adolescent. Et donc, c'est éternel.
Vous l'aviez rencontré ?
Je l'ai rencontré, mais je n'avais pas l'impression qu'il savait qui j'étais. Donc, je ne me suis jamais approché, parce qu'on m'a dit qu'il était difficile et tout ça. J'avais peur d'être défané.
C'est intéressant, donc, défané.
Et donc, en fait, c'est bête, parce qu'en fait, En fait, il savait qui j'étais, et c'est absurde, parce que je suis passé à côté de peut-être d'un,
je sais pas, d'une rencontre, d'une chimie,
d'une rencontre, d'une rencontre. Mais à l'époque, comme je savais pas, j'ai pas tenté.
Vaut mieux ne pas être déçu que de l'être ensuite. On ne garde que le mystère, et nous, on ne garde que vos chansons. Et dans cette balade parisienne, voici les flocons de l'été. Étienne Dao sur Europe.
Tout est blanc. Givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été.
Europe 1, en balade avec Étienne Dao. Nico Saliagas.
Les flocons de l'été, magnifique chanson d'Étienne Dao, extraite de l'album Blitz qui sort le 17 novembre. Étienne Dao, notre invité ce matin, c'est pas fini. On est arrivé ici à Montmartre, dans un endroit sublime, un havre de paix, un havre presque secret qui s'appelle l'Hôtel Particulier. Vous voulez boire quelque chose, Étienne ?
Oui, je vais prendre un thé vert.
Un thé vert pour Étienne. Pour vous, Nico.
La même chose, s'il vous plaît.
Très bien.
Avec un peu de miel, s'il y en a un petit peu qui traîne.
Oui, tout à fait.
Hein, histoire d'adoucir nos voix. Faites attention à votre voix. Est-ce que vous êtes sur scène, vous faites des tournées, vous prenez l'avion, vous protégez ?
Quand je suis en tournée, oui, je fais attention.
Vous ne parlez pas pendant des heures ça...
Non, j'évite de me retrouver dans des endroits enfumés. Ça, c'est killer pour la gorge.
Tout de suite ?
Ouais. Alors que je fumais 3 paquets de cigarettes avant. Et là, vraiment, dès que je suis en... quand j'ai chanté, s'il y a des fumeurs et tout, c'est très, très compliqué.
Vous avez traversé les modes, les décennies, avec pudeur, vous parlez peu, avec... parfois des rumeurs, parfois des succès, parfois un album plus culte que d'autres. Mais en restant le même, vous n'avez pas bougé. Vous avez fait attention, vous avez fait du yoga toute votre vie, à boire du thé vert.
Pas du tout, alors.
En vrai, c'est quoi le secret ?
Alors, en vrai, je crois que le secret, c'est les excès. Hein. Si c'était ça, dans mon cas, c'est véritablement les excès.
Vous en avez eu beaucoup ?
Oui. Bah, c'est ma génération, en fait. Si on ne faisait pas d'excès, on était un bonnet de nuit. Donc si on voulait être accepté par le groupe... On avait intérêt d'être... voilà. Fallait pas me pousser non plus, hein, je dois dire.
C'était de nature. Vous avez un côté discret, justement, et réservé, pas timide. Et en même temps, on sent que c'est une cocotte minute. Qu'à un moment, vous pouvez être aussi le leader la nuit pour aller boire des coups avec vos copains et ne pas avoir peur d'être dans des ambiances
vraiment,
pas
peu punk. C'est le fait d'avoir une caméra ou un micro devant le nez qui me rend différent. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont une image de moi...
plus réservé,
quelqu'un de très réservé, de très renfermé, tout ça, parce qu'en fait c'est pas tout ce que je suis dans la vie. Pudique, oui, bien sûr, mais pas du tout réservé ou fermé, pas du tout.
Quel regard vous portez sur le gamin que vous étiez à Rennes, l'ado qui écoutait de la musique, qui allait voir des concerts de rock?
J'étais un dingue. J'ai toujours été un dingue de musique. Véritablement, c'est vraiment une vocation et j'aurais pas pu faire autrement. Enfin, j'ai vraiment choisi la voie qui m'était vraiment destinée. J'ai pas choisi. Je ne suis pas laissé emporter par des milliards de choses. C'était tout de suite.
C'était
ça.
Une urgence.
Véritablement ça. Après, j'étais pas le meilleur des musiciens, j'étais pas le meilleur des chanteurs, j'étais pas le plus beau, j'étais pas le plus celui qui montait sur la table. Donc voilà, je savais que j'avais autour de moi des gens qui me paraissaient tellement extraordinaires. Surtout à Rennes, on avait quand même quelques groupes, dont Marquis de Sade.
Mythique.
Avec Philippe Pascal, qui est un chanteur tellement charismatique, ou d'Argelos. Donc je la ramenais pas trop parce que j'avais devant moi véritablement des exemples.
Des performeurs, ouais, voilà, ils étaient là.
Ça m'intimidait, quoi. Et un jour, je suis monté sur scène avec eux au Transmusical, c'était en 1919.
Et là, la magie, il se passe un truc.
J'ai passé un truc, j'ai eu des à l'époque, il y avait des mensuels très importants, rock and folk, best, extra, je sais pas. Et quand on avait un papier ou son nom publié dans un magazine comme ça, c'était quand même vachement important. Et le mois d'après, j'avais vraiment des papiers dithyrambiques sur ma prestation. Alors, c'était vraiment l'étonnement. Et ça m'a servi évidemment à signer avec une maison de disques après.
C'est incroyable comme cette poule qui vient picorer devant nos pieds. Il y a une poule devant nous ici en plein Paris.
Moi, j'aime pas trop les oiseaux, hein, donc il faut pas.
la culture volatile. Vous êtes allergique à la culture volatile?
Je sais pas. Le bec. Je sais pas. Il y a un truc. Les pattes. Je sais pas. Les oiseaux, c'est pas trop mon. Pas trop mon truc.
Elle vous regarde bizarrement. Ah, le thé vert arrive. It's a tea time. C'était un petit clin d'œil british, ce pays et cette culture que vous affectionnez et que vous aimez tellement. Qu'est-ce que vous ont appris les Anglais après toutes ces années d'aller-retour, de collaboration, qu'est-ce qu'ils ont les Anglais qu'on n'a pas, Étienne Dao?
Ça pourrait être aussi qu'avons-nous qu'ils n'ont pas.
Aussi, ça marche dans tous les sens.
Non, j'aime beaucoup la culture anglo-saxonne parce qu'il y a une culture musicale incroyable, quoi, surtout. Mmh. Et de trouver des partenaires, des studios, des ingénieurs du son, même s'il y a des gens très bien en France. J'ai toujours eu une affinité, j'ai toujours eu une passion pour l'Angleterre. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'allais travailler dans des hôtels. Mon premier travail, c'était dans un hôtel à Manchester. J'avais trouvé un boulot. J'avais menti sur mon âge. J'ai travaillé pendant 2 mois.
Vous avez fait quoi?
Tout. Je travaillais dans un hôtel, donc je montais les bagages.
Tout.
Je portais le thé. J'essayais d'échapper à des clients ou des clientes un petit peu trop empressés.
Qui vous sautez dessus?
J'ai appris la vie, ouais, vraiment.
Je veux tout dire, ça ne suffit pas.
C'est déjà à la tournée que vous allez vivre, à la scène?
Oui, bien sûr. Pas tout de suite, parce que je suis vraiment tellement concentré sur la sortie du disque. Et la scène, c'est un petit déclic comme ça dans la tête, où tout d'un coup, je me dis, ça y est, je vais partager, je vais aller vers les autres, je vais chanter. Ouais. C'est vraiment un truc mental pour moi. Je ne peux pas affronter tous les sujets comme ça. J'ai besoin de les vivre à fond. Et une fois que,
étape,
que la chose est passée,
étape par étape.
Quand le disque sera sorti, je penserai à la scène. Mais là, pour l'instant, je suis dans le moment où les choses vont arriver avec ce disque, le moment où le petit moment de la séparation qui est un petit peu bizarre, et puis
le cordon coupé,
du partage, quoi.
Le disque sort le 17 novembre, il s'appelle Blitz. On en a beaucoup parlé, on a écouté un titre. J'espère que nos auditeurs auront apprécié le mystère et j'espère qu'on leur a donné envie de découvrir le nouveau Dao, qui n'est pas un Dao parmi d'autres, c'est juste le même, il n'a pas changé. Quand vous faisiez vos titres dans les années 80 et que c'était un tube qui passait au top 50 ou ailleurs, c'était vous? Quand plus tard vous avez fait des choses un peu plus mystérieuses, un peu plus rock, c'était toujours vous? Et aujourd'hui dans Blitz, c'est on ne peut plus vous. C'était un plaisir, Étienne Dao, de vous avoir avec nous ce matin.
Moi aussi, c'est une chouette balade ensemble.
Dans les rues de Paris, Blitz, c'est le nom de l'album, ça sort le 17 novembre. C'est un vrai petit bijou, chaque chanson est une histoire, un petit film, et évidemment c'est bien produit. Bravo à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin, je vous retrouve dimanche prochain. Très bon après-midi sur Europe 1, bon dimanche à tous. Merci Étienne.
Merci, au revoir.
Retrouvez En balade avec tous les dimanches de 11h à midi sur Europe 1. et en podcast sur europe1.fr.